Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
En 2015, Sophie s'inscrit sur un site où les couples de lesbiennes et les femmes célibataires sont mis en contact avec des donneurs de sperme. Dans son annonce, elle précise qu'elle veut un enfant seul. Elle ne souhaite pas que le donneur s'investisse dans la parentalité. Elle fait alors la connaissance de Pierre, qui accepte le deal. À la deuxième tentative d'insémination, artisanale, à la seringue, Sophie est enceinte. Dès ce jour, Pierre manifeste une envie croissante d'entrer dans sa vie. Il veut assister aux échographies, a des idées de prénoms, veut rencontrer sa famille. Puis ses demandes grandissent. Il exige d'être présent à la maternité, il veut un droit de visite, reconnaître l'enfant. L'affaire tourne au harcèlement. Sophie change de téléphone et de maternité. De son côté, écrit l'Express qui raconte cette histoire, Pierre parcourt les mairies de la région pour déposer des reconnaissances anticipées assorties d'un gros mensonge. Et son plan fonctionne. À la naissance, non seulement sa paternité est reconnue, mais l'enfant portera son nom. À la sortie de la maternité, il est là. Sophie réussit à s'échapper, mais son cauchemar ne fait que commencer. PMA hors la loi, ce qui se passe quand il n'y a pas de loi, ce qu'on bricole dans la réalité. Tout de suite, c'est le deuxième épisode de l'histoire d'Adila Benedjaizou, célibataire de 44 ans, qui veut faire un enfant toute seule. Après s'être demandé si elle avait envie de cet enfant au point de braver les interdits moraux qui planent sur les femmes qui font des enfants sans père, elle se demande à présent si elle n'est pas trop vieille pour avoir un enfant.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Adila Zou, ça va?
Ouais, et toi?
Pas mal, je suis contente. Ah, bon, et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Eh bien, en ce moment, figure-toi que j'ai commencé la stimulation ovarienne.
Ah, génial, donc il faut que tu te reposes.
Ouais, faut surtout que je fabrique des ovules.
Et tu vois, il est éjacule dedans, là. Et nous, on a percé le truc pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à hop, l'insérer dans le vagin. Et ensuite, tu pousses au fur et à mesure et chlic.
Je suis célibataire en fait et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
Elles feront toutes des bébés toutes seules quand elles voudront. Comme
je
elles
suis
voudront.
Favorable à ce que on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes.
En fait,
même
moi
sexe.
Je ne suis pas née d'une étreinte.
Il y en a qui disent que c'est dégoûtant.
Jamais je me suis dit même par rapport à mon homosexualité, ça va pas être possible.
Faut dire que papa est trans, mais maman elle est gouine.
Para español, marque uno.
Et le problème, c'est que plus t'essayes, plus t'as peur.
Ça y est, je me suis lancée dans un parcours de fécondation in vitro dans une clinique espagnole au nom très prometteur.
Procreatec. Para español, marque uno.
Mais je ne mesurais pas à quel point c'était effectivement un parcours de la combattante. D'abord, plusieurs semaines avant de partir pour l'Espagne, il faut prendre un traitement hormonal qui n'est évidemment pas remboursé par la sécurité sociale. Or, ce traitement coûte très cher. Alors, les femmes malhonnêtes dans mon genre s'échangent sous le manteau les coordonnées de gynécologues tout aussi malhonnêtes. Exactement comme avant la loi Veil, quand on se refilait les adresses des médecins qui pratiquaient des avortements.
Les techniques, elles existent depuis très longtemps, en fait. Elles existent depuis la première fécondation in vitro, elles existent depuis très longtemps. Mais comme toujours, entre la technique et les pratiques sociales, surtout en France, on est toujours en retard.
On m'a donné vos coordonnées en disant « va voir tel gynécologue » parce qu'elle, elle fait quelque chose que les autres ne font pas. Ça, vous savez que votre nom circule comme
ça ? Oui, je savais. Oui, enfin, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des mois qui venaient, où effectivement, j'avais des patientes qui venaient de la part d'eux, voilà.
Mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est illégal.
Alors, c'est en partie illégal, oui, c'est pas très clair, au sens où, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne effectivement les femmes, ou les couples d'homosexuels, qui vont à l'étranger, puisque donc, il n'y a pas possibilité d'avoir de sperme ici. Alors, il y a un problème financier quand même, ça coûte vachement cher. Donc là, il n'y a pas d'égalité des droits, parce que si on n'a pas de sous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est très cher quand même. Hein. Donc, moi, ce que je fais pour soulager un peu cette histoire financière, c'est que je fais les prescriptions de médicaments prescrits par la Belgique, l'Espagne, ou peu importe le pays où elles ont choisi d'aller, et les examens complémentaires qui sont nécessaires. Voilà, je fais ça. Alors oui, c'est illégal, oui, il y a eu... Au niveau du Conseil de l'Ordre, je crois, et de la Sécu, je crois aussi, des messages disant que effectivement, ce n'était pas légal de faire ça.
Voilà, vous le savez, le fameux fraudeur de la Sécurité sociale, eh ben c'est moi. J'ai été remboursée d'un traitement auquel je n'avais pas droit. Ça ne changera probablement pas la piètre opinion que vous avez de moi à présent, mais sachez que sans cette fraude, je n'aurais pas pu me payer mon traitement hormonal. Il est d'un montant de 1500 euros et s'ajoute aux 6000 euros que je vais verser à la clinique espagnole.
Je ne suis pas une transgressive de la loi, en général. Je suis quelqu'un qui est assez réglo avec la loi, je paye mes impôts, je suis même très très stricte sur un certain nombre de choses. Mais si la loi n'est pas juste, alors à ce moment-là, il faut la transgresser, mais surtout se battre pour la changer. Et pendant qu'on se bat pour la changer, on la transgresse. Ce qui n'est pas du tout pareil que décider qu'on transgresse une loi sans réfléchir au reste. Et je pense que j'ai transgressé au niveau de l'avortement, par exemple, la loi qui n'était pas juste, mais en même temps, je me suis battue pour qu'elle change. En fait, le début, c'est l'avortement. Hein. Je me suis beaucoup engagée sur l'avortement. Donc là, c'est très clair. C'est un enfant. Si je veux, quand je veux, je reste attachée à ce slogan du planning familial. Et c'est comme je veux aussi. Alors vraiment, dans la mesure où maintenant, il y a des techniques possibles, vraiment, mon fil directeur, ça a été les femmes, elles décident, elles, de ce qu'elles font de leur corps.
En fait, c'est pas tout à fait vrai. Je fais pas exactement ce que je veux avec mon corps. J'ai appris qu'à mon âge, mes chances de tomber enceinte à l'issue d'une fécondation in vitro sont quasi nulles, en fait. Moins de 10%. Avec le temps, non seulement mes ovules sont devenus moins nombreux, mais en plus, ils sont devenus moins bons.
Énorme piqûre. C'est juste le produit. J'ai une autre seringue pour faire.
Pour mettre toutes les chances de mon côté, je suis donc soumise à ce qu'on appelle une stimulation ovarienne. Je suis dopée aux hormones pour fabriquer un maximum d'ovules, qu'on appelle aussi ovocytes, et qu'on va récolter.
Je te tiens, le petit truc, attention, ne le fais pas tomber. Ah ouais, pas mal. J'ai l'impression que ça fait des études d'infirmière. Voilà, il y a un deuxième produit.
Je sais qu'en suivant un traitement comme le mien, une femme de moins de 40 ans peut fabriquer une dizaine d'ovocytes. À mon âge, si j'en obtiens 5 ou 6, je peux m'estimer heureuse.
Parce que ça, c'est le solvant, en fait.
Ah, d'accord. Et ça, c'est le nouveau médicament qui fait gonfler les ovaires ?
Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est celui que je prends depuis le début.
Qu'à cela ne tienne. Je suis persuadée que ma motivation peut galvaniser mes vieux organes. J'apprends à me faire des injections, je me fais 3 piqûres par jour, j'accepte de prendre du poids, d'avoir mal à la tête, j'arrête de boire et surtout, j'arrête de fumer.
Elle est un peu plus fine.
Oui, elle est petite, celle-là. Tu vois, le truc que j'oublie tout le temps,
c'est de désinfecter. Avec le PQ de la cafétéria.
J'ai un nouveau but dans la vie, produire de l'ovule.
Regarde pas.
C'est à cette période que j'apprends que si j'avais été plus prévoyante, j'aurais pu mettre toutes les chances de mon côté en faisant congeler mes ovocytes.
C'est aussi simple que ça.
Comme Selma l'a fait.
Vous commencez à prendre le traitement et il vous donne une date pour un premier contrôle. Le traitement, il est facile. Maintenant, l'état dans lequel on se trouve à la fin du traitement, c'est pas douloureux, mais... c'est contraignant. À la fin, j'arrivais plus à marcher parce que ça prend de la place. C'est comme si vous portiez un enfant parce que c'est lourd. On sent qu'il y a un poids supplémentaire. Et c'est surtout le fait d'avoir énormément de mal à avancer. Je devais porter mon ventre et je dandinais quoi, à droite, gauche, droite. Là-dessus, c'était un peu plus difficile.
Vous vous êtes donné un délai pour les utiliser, ces ovocytes congelés?
Franchement, non. Les ovocytes peuvent être conservés longtemps. Il y a juste la contrainte de devoir les payer au bout de, je crois, 5 ans. Mais c'est tout. Donc, je souhaite les laisser de côté dans la mesure où j'arrive à avoir un enfant donc de manière classique et les utiliser dans le cas où ça serait plus possible. Donc si effectivement, même en rencontrant quelqu'un, j'ai des difficultés à tomber enceinte, ou, j'aurai cette sécurité-là. Voilà, ça sera une fécondation in vitro ou peut-être une mère porteuse. Mais en tout cas, avec ces ovocytes-là, il y a une solution.
D'accord.
Je ne veux pas finir ma vie toute seule, ça c'est sûr. C'est d'une manière ou d'une autre, si je ne peux pas avoir un homme dans ma vie, j'aurai au moins un enfant dans ma vie.
Vous faites quoi dans la vie?
Alors, je fais du conseil auprès d'un cabinet d'audit et d'expertise comptable. C'est un travail qui est très prenant. D'où le fait qu'à 37 ans, j'ai toujours pas d'enfant et pas de situation familiale stable.
Vous pensez que c'est parce que vous passez beaucoup d'énergie dans votre travail?
Alors, c'est plus que de l'énergie. J'ai eu des périodes très longues où j'étais au travail à 6 heures du matin, j'en sortais à 4 heures. Donc, 2 heures pour rentrer, se doucher, se laver, dormir, fermer les yeux, une petite heure et ressortir. C'est...
Mais vous tenez combien de temps comme ça? C'est pas possible de dire.
J'ai tenu longtemps. Mais il faut dire que j'étais super motivée par le boulot. J'avais hâte d'y retourner. Mais ça, c'était une époque. Aujourd'hui, je ne serais pas capable de faire ça.
Et vous avez des collègues qui ont fait le même choix que vous sur la congélation?
Alors, dans ce milieu-là, la majorité des femmes priorisent le travail et elles font le choix de ne pas avoir d'enfants ou de famille. Très souvent, c'est le cas. Maintenant, les jeunes générations, on essaye de trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso et de laisser la place à la vie perso. Certaines femmes font ce choix-là. On va dire jusqu'à 42, 43 ans, elles ont une famille. Tardivement, mais elles ont réussi à construire une famille, à avoir des enfants. Au-delà, en général, c'est les associés. C'est des femmes célibataires. Ouais. Les hommes, c'est pas la même chose. Bizarrement, ils ont des familles. Tous. C'est vraiment particulier aux femmes. Peut-être que les hommes... ils s'occupent un peu moins de la famille. En général, ils ne sont pas très présents. Mais au moins, ils ont une conjointe qui peut gérer ça. Je pense que quand on est dans ce milieu-là, les hommes ne vont pas vers des femmes qui font le même métier. Je pense.
Si je n'ai pas congelé mes ovocytes quand il en était encore temps, c'est parce que je ne savais pas que ce procédé existait. Mais pourquoi je n'ai pas eu d'enfant plus tôt, je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est parce que je travaillais trop comme Selma? Je crois pas. En fait, je crois que je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire d'horloge biologique. Je suis justement de cette génération à qui on a dit qu'elle aurait un enfant quand elle veut, si elle veut. Mais je n'avais pas compris que si la médecine sait très bien éviter les grossesses, elle sait beaucoup moins bien les provoquer. Et je me sens d'autant plus bête aujourd'hui à doper mes vieux ovocytes décrépits. Je fais une échographie tous les 2 jours pour mesurer la croissance de mes follicules. Chacun de ces follicules, une fois arrivé à maturité, contiendra un ovocyte. Malheureusement, malgré tous mes efforts, mes résultats sont médiocres. Je n'en ai que 3. Et qui poussent très lentement.
Je ne sais pas si vous connaissez les effets secondaires de l'organutran, mais du coup, moi, hier après-midi, j'avais l'impression de sentir mes ovaires hyper gonflés. J'avais l'impression d'avoir des boules dans le ventre.
Mais vous avez des petites boules quand même.
Je sais, mais elles sont tellement petites que je ne pensais pas que je les sentirais.
On va voir si ça a poussé.
J'en ai qu'un gros aujourd'hui, à droite.
L'autre, il a rapt ici.
Parce que je ne pense pas que vous ayez ovulé quand même, ça je le verrai. Alors, oui, il y en a un qui n'a pas poussé. Non.
C'est plus que pas poussé, parce que du coup, c'est-à-dire qu'il est plus petit qu'avant.
Oui, il y en a un, oui.
Ah ouais? C'est possible, ça? Ils peuvent rapetisser?
S'il n'est pas bon, oui.
D'accord.
Ils font quel que soit le nombre de follicules? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
à moins qu'il soit vraiment trop petit, auquel cas ils ne feront pas la ponction.
Il a poussé, enfin c'est pas...
Trois follicules, c'est déjà nul. Si en plus, il y en a qui rétrécissent en cours de route, c'est carrément la catastrophe. J'appelle la clinique espagnole pour faire le point.
Procadec.
Bonjour, j'aimerais parler à Feriel, s'il vous plaît.
Feriel, c'est la jeune femme qui me suit depuis le début de mon traitement en Espagne. Entre chargée de clientèle et conseillère médicale, elle fait le lien entre moi, cliente française, et l'équipe espagnole.
Alors, c'est pas si catastrophique que ça. Effectivement, votre stimulation est lente. Mais bon, c'est quelque chose de normal. Normalement, les follicules augmentent d'un millimètre par jour. Donc, c'est pas si grave que ça.
D'accord. Mais il y a un truc, c'est que en fait, j'ai un follicule qui a rétréci. Vous avez vu ou pas?
Je sais pas si le docteur Izquierdo, si je crois qu'elle l'a vu, mais elle m'a dit en tout cas de pas s'inquiéter.
Moi, je veux bien ne pas m'inquiéter, mais du coup, ça veut dire quoi? C'est bizarre, non, un follicule qui rétrécit?
On va voir justement comment il évolue demain pour savoir si celui-là, on l'a perdu en cours de route, parce que ça peut arriver aussi.
D'accord. Et on fait la ponction quoi qu'il arrive?
On vous fait la ponction, oui.
D'accord, c'est pas perdu d'avance, quoi.
Non, c'est pas perdu d'avance, mais bon, ce serait bête quand même d'avoir fait tout ça et puis de
tout aller lâcher, au bout du processus.
Oui, si vous décidez de tout arrêter maintenant, il y aura certains frais qui ne vous seront pas remboursés. À vous de voir si vous voulez perdre une partie, mais en économisant si vous voulez le reste parce que vous pensez que ça va pas fonctionner du tout, ou continuer. C'est à vous de nous dire, quoi.
Moi, je sais pas trop, parce qu'en fait, plus j'avance dans le processus, donc plus ça me coûte de l'argent, et plus ça me coûte de l'argent, plus je vais devoir retarder ou oblitérer mes chances de faire une autre tentative, ça m'ennuie, quoi.
Oui.
En fait, ce que j'ai du mal à me figurer, c'est une véritable chance, quoi, dans un cas où il y a si peu de follicules. Juste, moi, j'ai pas envie qu'on me vende du rêve. S'il y a aucune chance, je préfère arrêter.
C'est moins de 10% de chance que ça fonctionne. Maintenant, on m'a pas dit 1%, 2%, mais...
Ouais, en fait, on sait pas très bien.
Non, non.
Okay. Très bien. Bah, de toute façon, je vais faire mes examens demain, je vous envoie les résultats. Puis on...
En fonction des résultats, on voit si vous voulez aller de l'avant ou pas.
Attendant de savoir si mes ovocytes vont se décider à grandir, je vais assister à une procréation assistée artisanale. Si j'avais eu quelques années de moins et quelques ovules de plus, je pense que c'est ce procédé que j'aurais choisi. Maud et Estelle ont décidé d'avoir un enfant avec un ami qui est d'accord pour leur faire un don de sperme. En tant que couple de femmes, elles n'ont pas le droit de faire une insémination artificielle en France. Mais plutôt que partir à l'étranger, elles ont décidé de faire ça chez elles, par leurs propres moyens.
Alors, oh, mais c'est énorme.
C'est énorme, ce que je me suis dit. Elle, Maudelle me dit, mais non, ça va aller. Je dis, mais non, mais c'est énorme. Et alors, on va lui demander d'éjaculer direct dedans, parce qu'on avait vu un tuto où tu passes d'abord par une première seringue pour prendre le truc, ensuite tu la verses dedans, et on se dit, Maud me disait au départ, non, il ne pourra jamais éjaculer dedans. Et si, ben en non. fait, s'il la tient, mais si, regarde. On enlève ça. Et tu vois, il éjacule dedans, là. Et nous, on a percé le truc pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à hop, l'insérer dans le vagin. Et voilà. Et ensuite, tu pousses au fur et à mesure et schlick.
Ok. Bon, vous avez déjà... Ah
Il y a cette mine depuis qu'il boit plus d'alcool.
Moi. Ah, il y a du café, chérie?
Il y a du café, il y a des petits gâteaux.
Bon, racontez-moi ce qui va se passer alors.
Alors, on se disait, soit Yagos, tu vas dans le bureau pour faire ta petite affaire, soit tu vas dans la salle de bain. Et puis ensuite, c'est Adila, la messagère, qui arrive avec la petite seringue. En fait, si tu pouvais directement éjaculer dans la petite seringue que je vais te montrer, ce serait super. L'idée, c'est pas qu'elle rentre dedans, hein. L'idée, c'est juste que t'éjacules.
Mais ça, c'est pas un peu compliqué d'éjaculer directement dans la seringue?
J'ai jamais fait. Hein.
Non, on a un récipient, tu sais, là où tu fais tes analyses d'urine. On a un petit récipient de laboratoire. L'avantage avec la seringue, c'est que du coup, il n'y a pas à récupérer. Après, ça va directement dans le vagin. Il y a une étape en moins. On abîme moins tes petits spermatozoïdes.
Non, c'est mieux de faire ça plutôt que...
Bah, on essaye. Et puis, si ça ne marche pas, demain, on fera dans le petit récipient.
Oui. Ah oui, d'accord.
C'est là. L'idée, c'est que tu enlèves ça et que tu éjacules là-dedans pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à pousser.
Oui.
Ça semble compliqué.
Tu le mets au bout et puis t'éjacules dedans.
Non, c'est pas possible. Moi, je me rends pas compte.
Moi non plus. C'est possible, mais je sais.
Bah, le pénis, c'est ton érection.
Oui, mais tu mets pas ton pénis dedans, en fait. Tu le mets au niveau du petit trou, par où ça respire.
Non, mais attendez, dans le tuto, le mec, il se branle dans la seringue.
Non, non, non.
Mais non, mais vous êtes folle. Mais dis-leur non. T'as le droit de dire non, Yagos. T'imagines, il va falloir que tu te branles, que tu gardes la seringue en face, que tu la gardes horizontale, parce qu'il faut pas que ça coule non plus.
Non, mais c'est beau de scotch.
Toi, ça te paraît faisable? Non, mais c'est toi qui es seul juge, hein. Mais moi, ça me paraît très optimiste. Hein.
Si le trou, tu l'orientes.
Non, c'est la position du pénis. Je pense qu'il risque de.
Et regarde vers le haut, ton pénis.
Ah, j'y ai pas pensé à ça. Ça fait longtemps. Ah oui, dis donc. Oui.
Non, mais j'aime bien le challenge aussi. Mais,
non, mais effectivement.
Le problème, c'est de ne pas gâcher cette première.
On n'avait pas pensé à ça.
Non, pas du tout.
Que le pénis regardait le ciel.
Non, je pense que je vais vraiment essayer de faire...
Et après, la question, c'est le timing entre le moment où tu éjacules et le moment où il faut aller assez vite.
Ouais.
Donc je me disais, on commence, on est dans la chambre, on s'excite un peu, on se fait nos trucs, et puis ensuite, Katia vient chercher, on le fait le plus rapidement possible. C'est là qu'il faut aller vite, je crois. Si t'es dans la salle de bain, tu nous l'amènes. Tu passes la main dans la porte, et puis comme ça, il n'y a plus qu'à...
Vous serez dans la petite chambre.
Dans la petite chambre là-bas, oui. Ouais.
Et en termes de quantité?
Sur ce tutoriel, il devait y avoir à peu près ça, de sperme. Oui, ça.
On a de quoi t'aider. On a pensé à tout. On a un petit quelque chose pour ça. Une petite étape dans le marais ce matin pour t'aider. C'est la librairie LGBT du marais.
Le livre du gros pénis.
T'as vu le mec? Que t'en fasses.
Après, peut-être que c'est pas ton truc, hein, le gros pénis.
Waouh, c'est impressionnant, hein, dis donc. Hein. Putain, mais ils ont des pénis gigantesques. Hein.
Ah ouais, ils ont trois jambes, quoi.
T'as vu, lui, ça lui arrivait jusqu'au sein.
Ça me...
Tu crois que ça va t'aider?
C'est possible.
Parfait.
Bon, je m'y mets au boulot. Ouais, la salle de bain, c'est très excitant.
Le sopalin. L'idée, c'est d'avoir le bassin un peu surélevé. Donc après, on a regardé sur un bouquin, il y a des noms de positions assez hallucinants. On s'est dit, celle avec les pieds sur les épaules de Maud, en relevant un peu le bassin, ça pourrait être sympa. Donc on va peut-être tenter ça.
D'accord. Ok. Pourquoi c'est important pour vous que ce soit aussi un moment érotique?
Ça va de soi. Puis il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'efficacité de la chose. Plus t'es à l'aise, détendu, plus c'est humide, plus ça rentre facilement. Et puis on a l'impression aussi que du coup c'est notre œuvre à nous trois, mais aussi à nous deux.
Mmh.
Ouais.
Tout à l'heure. À
tout à l'heure.
La quantité laisse à désirer. Allez, have fun. J'ai mis quoi? 10 minutes, 15?
Ah, je sais pas, j'ai pas du tout compté le temps.
Non, mais c'était pas possible avec la 5, tu vois. C'était au moment où je sentais l'éjaculation, je me dis, je perdais la concentration parce qu'il fallait viser, tu vois.
Alors, écoute, on va débriefer. C'était un peu gros cette soirée. Un peu gros. Peut-être faire avec les petites. Voilà, et puis après, elle a fait la chandelle.
D'accord. Pour...
Là, qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochains jours et ensuite?
Là, on réitère l'expérience demain, lundi, et peut-être...
Peut-être mercredi.
Peut-être mercredi. Et puis ensuite, si ça ne fonctionne pas, Yagos va prendre du bon temps au Brésil, revient en pleine forme, et à partir de là, on s'organise à nouveau. Ouais.
D'accord. 24 heures après le drame du follicule qui rétrécit, je fais une nouvelle échographie, et un miracle a eu lieu. Mes follicules ont pris 4 mm pendant la nuit, ce qui les rend éligibles à une ponction. J'appelle immédiatement ma nouvelle meilleure amie, Feriel.
Ah ben, ils ont bien grandi, 19 mm.
Ah, c'est énorme, je sais pas pourquoi.
Ok. Donc, j'ai eu le docteur Izquierdo, donc elle m'a répondu. Donc, il faudrait que vous fassiez les injections de gonal, ménopur et orgalutran à midi, donc maintenant.
Ah, d'accord.
Cette nuit, l'injection d'Ovitrel. Donc, on confirme ponction lundi, 9h.
Super.
Bon, bah, très bien, on a réussi à s'organiser, ça va.
Ouais, c'est bien, c'est très bien. Okay. Merci
bon,
beaucoup,
bah, à tout à l'heure. Je viens au courant tout à l'heure.
Ouais, ok.
Ok.
On estime que pour avoir une chance d'obtenir une fécondation réussie, il faut avoir au moins 4 ovocytes. 2 ovocytes, c'est pas beaucoup. Mais après tout, c'est pas 4 enfants que je veux, un seul me suffit. Je m'envole vers l'Espagne, pleine d'espoir et d'appréhension.
Hors la loi, c'est un podcast signé Adila Benedjaizou, réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Cécile Lafont. Il est entièrement podcastable sur toutes les applis de podcast, les 6 épisodes donc, la fin si vous voulez la connaître, et sur franceculture.fr. Merci au docteur D, à Delphine, à Joseph, à Samia, à Estelle, à Maud, à Yagos, à Feriel et à la clinique Procréatech. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire. Behind that mirror's an awful place. I'm still waiting around. I'm still waiting around.